franceinter.fr.
La revue de presse, bonjour Renaud Duvic.
Bonjour à tous.
Dans la presse ce matin, mafieux, gourous et pauvres gens.
C'est une interview hallucinante qui explique comment toutes les dérives sont possibles dans le football. Le 12 novembre, la semaine dernière, avant l'affaire des matchs truqués et celle des transferts à l'OM, l'équipe s'est entretenue avec le président de l'Olympique de Marseille. Entretien en partie enregistré, en partie informel. Le journal a choisi de le publier maintenant, y compris ce qu'on appelle les off. Vincent Labrune y explique comment se déroulent les transferts. Et si l'on devait résumer d'une phrase, lui, le patron de l'OM, l'un des grands clubs de foot français, eh bien, il ne maîtrise pas grand-chose. Qui dit transfert, dit agent. Le problème, dit Vincent Labrune, c'est que la moitié des agents n'en sont pas. Ils n'ont pas de licence officielle. Ceux qui ont la licence, ce sont des couvertures pour d'autres. Qui, ces autres ? Eh bien, on ne sait pas vraiment. Tu discutes avec des mecs en costard cravate nickel et 6 mois après, tu te rends compte qu'ils ont reversé de l'argent à Pierre, Paul ou Jacques. En fait, l'affaire se traite souvent avec des intermédiaires pas bien identifiés. Transfert de Valbuena à Moscou, par exemple. Les intermédiaires qui font les transferts pour Moscou m'ont envoyé une lettre selon laquelle c'était eux, les représentants. À la fin, c'était oui. Alors, on doit payer l'agent, russe ou croate, je ne sais plus. Et puis, il faut compter avec les familles de joueurs. Tu parles autant avec l'agent qu'avec le père, le frère, ou je ne sais pas qui. Le président de l'OM ne sait pas. C'est ce que l'équipe appelle les vérités de Labrune. Un éclairage instructif, commente le journal.
Scène de délire en Chine.
Ils sont environ 1 000 000 dans les grands salons d'un hôtel 5 étoiles de Pékin. L'orateur fait son entrée dans un déferlement de musique et de lumière. À la fin de la conférence, on se précipite sur lui, banquiers et étudiants confondus, pour un autographe ou un selfie. L'orateur est un Français, c'est l'économiste Thomas Piketty. Piketty, gourou mondial, titre l'Obs, qui le met en couverture cette semaine. Son livre, Le Capital au XXIe siècle, s'est vendu à plus d'1 000 000 d'exemplaires dans le monde, 500 000 en langue anglaise, 32 traductions, dont la chinoise, donc, au pays de Mao. L'économiste qui explique que nos sociétés occidentales en particulier sont de plus en plus inégalitaire est surnommé le Marx du XXIe siècle. Société de plus en plus inégalitaire, illustration quelques pages plus loin dans l'Obs. Reportage dans l'une des plaques tournantes de la planète aujourd'hui, la Silicon Valley. Mountain View, autrement dit Google City, tout gratuit pour les salariés de Google, les repas bio à la cafétéria, les cours de ukulélé, le terrain de basket, les vélos jolis comme tout. Un quart d'heure de voiture sur la route 101, les vélos que l'on croise sont complètement déglingués. Vous êtes dans la jungle, l'un des plus grands camps de SDF des États-Unis, chez les oubliés de la révolution tech. Reportage de Doan Boy. Vivent dans cette jungle notamment des gens chassés de chez eux par la flambée de l'immobilier dans la Silicon Valley. 2 600 $ le loyer moyen à Palo Alto. C'est un raccourci de l'Amérique version Piketty et des tensions quand les deux mondes se croisent. Le bus des salariés de Google caillassé, où cet entrepreneur qui a fait fortune dans la tech, la fête d'anniversaire pour ses 40 ans avait pour thème qu'il mange de la brioche. Phrase célèbre prêtée à Marie-Antoinette sous la Révolution. Gourou des nouvelles technologies, joli coup de challenge cette semaine, qui publie une interview de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, lorsqu'il est question du conflit avec les éditeurs qui s'estiment maltraités par le géant de la librairie en ligne. Il se réfugie derrière le succès de son entreprise. Personne n'a jamais rendu autant de livres disponibles. Les inégalités en 2014, illustration dans la presse. 25e anniversaire de la Convention internationale des droits des enfants. Et ce chiffre dans l'humanité, 440 000 enfants tombés dans la pauvreté en France depuis le début de la crise en 2008. Les enfants de la récession paient la crise au prix fort, titre l'UMA.
Pauvres gens encore, cette minorité maltraitée en France.
Oui, ils mériteraient l'attention de toutes les ligues qui défendent le droit à la différence. Mais on ne les entend pas, personne ne les défend. Ils vivent dans la crainte d'être malmenés. Ils, ce sont les derniers, 12 à 15% de l'opinion, qui aiment bien encore François Hollande. Ils répondent oui aux instituts de sondage quand on leur demande s'ils sont satisfaits de son action. Le cercle des Hollandais disparu. Papier très amusant de Renaud Dely et Sylvain Courage, c'est dans l'Obs encore. Ils sont 9 sélectionnés par Ipsos à avoir accepté de parler. Au début, on ne leur avait pas dit qu'ils ne seraient qu'avec des gens comme eux. Alors prudence au départ. Mina, architecte d'intérieur, reconnaît qu'il y a beaucoup de déceptions par rapport à tout ce que le candidat avait promis. Elle s'arrête un instant, jette un œil alentour, surprise. Aucun des présents ne renchérit dans la critique. Alors elle se lance, oui, j'ai voté Hollande et je recommencerai en 2017 sans hésiter. Ce que les neuf mettent en avant, c'est l'humanité de leur président aimé, aimé d'autant plus par contraste avec Nicolas Sarkozy. Finalement, dit une autre, il a fait pas mal de réformes, mais aucun des neuf ne pronostique la présence de la gauche au second tour de la prochaine présidentielle. En voilà deux qui connaissent François Hollande, qui le voient régulièrement. Sont-ils des gourous? Peut-être des modèles, en tout cas pour certains étudiants en journalisme. Fabrice Lhomme et Gérard Davet, les deux du Monde, derrière l'affaire Fillon-Jouyet, entre autres, auteur du livre « Sarko s'est tué », qui compile toutes les affaires qui menacent l'ancien président. Davet et Lhomme, portrait croisé signé Pascal Nivelle dans Libération et titré « Investigation à la clash ». Le jour de la rencontre, les deux portaient des Doc Martens et Fabrice Lhomme un t-shirt inspiré des Clash, le groupe de punk britannique. Davet Lhomme, de gueule qui ne sourit pas beaucoup, marathonien à l'occasion, je me demande ce qui nous pousse à faire des trucs qui font aussi mal, dit l'un des deux. Ni partageurs ni conviviaux, écrit Pascal Nivelle, solide dans la bourrasque. Récemment au courrier, l'un a reçu un petit cercueil, l'autre une balle. Les familles sont sous protection. Couple obsessionnel, on est devenus malades tous les deux. Enfance de cancre, l'un veut tout contrôler, l'autre a un problème avec l'autorité. Petit, ma mère me promenait en laisse, raconte Fabrice Lhomme. Passage par l'extrême droite et la dope. Le jour de la mort de Joe Strummer, le leader des Clash, il a chialé comme un môme. Un bout de moi est parti, mais je reste en rébellion absolue. Gérard Davet approuve, on dure parce qu'on a faim. À demain.
À demain, c'était Bruno Duvic pour la revue de presse. Merci beaucoup Bruno. Dans un instant, retour à notre dossier sur l'évasion fiscale.